7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois langues bien pendues, journalistes ou blogueuses de trois continents pour secouer l'actu et l'air du temps. Ana Navarro Pedro, journaliste portugaise pour l'hebdomadaire Visão. Bom dia, Ana.
Bom dia, olá.
On est ravis de vous retrouver. Une nouvelle tchatcheuse, Mira Kamdar. Bonjour.
Good morning.
Morning, journaliste américaine, ancienne éditorialiste au New York Times. Diretou Diallo, blogueuse guinéenne, on peut vous lire notamment sur Mondo Blog, la plateforme de RFI. Diarama.
Diarama, Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir vous aussi. Et en fin d'émission, ne manquez pas les voisins et les voisines, notre reportage au cœur d'un groupe d'étudiants à Paris qui imagine en commun les métiers de demain après l'effondrement du monde. Non, ça n'est pas une plaisanterie. Suite au réchauffement climatique vers... qui sait, 2030, 2060. En tout cas, réaliste ou pessimiste, ce sont des jeunes qui baignent calmement dans une terrible inquiétude. Et bien sûr, sinon, les voisins, vous pouvez poster vos réactions sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre WhatsApp 331 84 22 71 71 et nous laisser des messages.
Cuéntame que te pasa.
I would like to make a few comments.
Comment ça passe ça?
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Maintenant, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Tchatcher, c'est parler avec plaisir, mais souvent et parfois de choses graves. Ana Navarro Pedro, pour démarrer, c'est un coup de chapeau que vous voulez adresser à une femme, la première ministre néo-zélandaise, après les attaques contre deux mosquées de Christchurch qui ont fait 50 morts le 15 mars dernier. On écoute la voix de Jacinda Ardern.
We, New Zealand, we were not a target because we are a safe harbour for those who hate.
Jacinda Ardern qui refuse de citer le nom de l'auteur des attentats pour ne pas lui faire de publicité.
Et ça, c'est quand même une sacrée revanche et un sacré coup porté à ce type. On ne sait pratiquement... Moi, je n'ai même plus retenu le nom du gars non plus. Si je dois l'écrire dans le cadre de mon travail, je le ferai, mais bon.
Il est australien.
Vous savez, après sa réaction à ce crime dans un pays particulièrement pacifique, un pays qui, comme elle-même disait, Jacinda Ardern, a 200 ethnies, 160 langues, ce pays n'a pas été choisi par hasard. C'était vraiment pour faire une bascule aussi dans la tête du gars, vers un climat de haine et mettons presque d'une guerre civile larvée, voire déclarée. Il n'a pas réussi en grande partie grâce à son attitude. Elle a été un pilier pour son pays. Elle a été d'une empathie sans faille vis-à-vis une communauté sous le choc. Et elle a été d'une fermeté qui inspire confiance. D'abord en refusant la notoriété du gars, ensuite en bannissant les armes automatiques et semi-automatiques dans son pays. À un moment où c'était pas facile, faut pas croire, en Nouvelle-Zélande, il y a des mouvements dans son propre parti travailliste contre les immigrés, contre le nombre de réfugiés, pour une politique plus fermée comme aux États-Unis, voire dans d'autres pays européens. Donc, c'était pas acquis d'avance son succès. Je pense qu'il y a une cohérence de conviction, d'action, de fermeté qui a fait un tout et qu'elle est devenue, pour l'instant, un peu inattaquable, mais aussi une attitude de compréhension. Par exemple, quand elle a banni les armes semi-automatiques, elle a dit « Attention, il va y avoir un problème avec nos fermiers, avec des gens qui vivent dans des endroits très reculés en Nouvelle-Zélande. Eh bien, on va parler avec eux et on va trouver une solution. » Elle n'a pas dit on va leur imposer notre choix. Elle a dit on va trouver une solution, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Et je pense que là, c'est vraiment un signe d'un leader. Je pense que c'est le New York Times, en tout cas un journal américain, qui a dit qu'est-ce qu'on aimerait la voir comme leader politique aux États-Unis.
Oui, c'est une vraie Jacinda Mania qui s'est emparée de l'opinion. Il y a la plus grande tour du monde à Dubaï qui a affiché sa photo avec le mot paix. Il y a eu des pétitions qui la proposent comme prix Nobel de la paix. Alors, cette jeune femme, hein, parce que...
Elle a 38 ans.
Oui, elle a été à 37 ans quand elle est arrivée au pouvoir, la plus jeune dirigeante du pays. Elle a aussi été la plus jeune dirigeante de l'histoire du Parti travailliste.
Absolument.
En Nouvelle-Zélande, à 28 ans. Je crois qu'elle a amené son bébé de 3 mois aussi à une Assemblée générale des Nations Unies.
Qui avait un badge, disons, premier enfant de Nouvelle-Zélande.
C'est une fille de policier qui a été élevée d'ailleurs dans la foi mormone à laquelle elle a renoncé à cause des positions homophobes, elle n'était pas d'accord avec ses positions homophobes, donc elle a quitté ses convictions. Mais finalement, aujourd'hui quand même, après cette compassion totalement sincère qu'elle a affichée, elle dit aussi qu'elle n'est pas spécialiste des questions de sécurité, et forcément, il y a des questionnements qui se posent sur les failles dans les systèmes de renseignement pour identifier un terrorisme d'extrême droite. Donc, combien de temps cette Jacinda Mania peut tenir du fait de son aura, de l'aura de cette femme?
Pas très longtemps, il faut bien le dire, et j'espère bien qu'elle ne... Et je pense bien qu'elle n'y participe pas d'elle-même. C'est les réseaux sociaux, c'est tout le reste. Mais elle-même, elle vient de lancer une enquête sur les failles. Une enquête. Et vous savez qu'elle est ministre du renseignement aussi. Premier ministre et cumule les fonctions de la sécurité et du renseignement. Donc elle vient de lancer une enquête sur ces failles. Elle s'appuiera évidemment sur les spécialistes. J'ai bien dit au début qu'il y a d'énormes dissensions au sein même de son parti. Ne parlons pas de l'opposition. Donc il faudra tenir. Mais elle a maintenant un capital politique pour pouvoir quand même peser sur l'évolution du dialogue dans son pays. Et ça peut être un exemple à l'extérieur, un exemple de fermeté et d'empathie plutôt qu'un exemple de haine et de violence.
Donc vous êtes d'accord institutionnelle.
C'est rassurant, moi je trouve, d'avoir de plus en plus de femmes comme ça qui sont, je veux dire, qu'on voit d'un point de vue international, qui s'engagent, et surtout comme Anna le disait tout à l'heure, elle a anticipé les critiques qu'on pourrait lui faire, et elle a dit attention, je ne suis pas une spécialiste, donc je veux vraiment bien faire, et ça je trouve que c'est encourageant pour le coup.
C'est vraiment le contre-exemple de Trump ou de tous les hommes forts qu'on voit surgir dans le monde entier, que ce soit Bolsonaro, que ce soit Orban. C'est tellement rassurant, c'est tellement bien de voir ça. Et je pense que dans tous ces pays qui sont de plus en plus martelés, divisés par ces haines et par ces violences, voir un chef d'État, femme, qui par son empathie, comme Anna l'a dit, et sa fermeté, tout à la fois, a vraiment donné un exemple.
Je pense qu'il y a l'élément sincérité aussi dans son attitude. Elle n'est pas fake news, elle n'est pas fabriquée. Vous savez que quand elle était plus jeune, elle a travaillé pendant 6 mois dans une soupe populaire à New York comme volontaire. Ça, entre deux boulots de haut niveau, un au cabinet de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, et plus tard, et tout de suite après, au cabinet de Tony Blair, en premier ministre anglais. Donc quand même, elle avait l'expérience politique et au plus haut niveau. Donc ça veut dire de toutes les luttes intestines, de toutes les saletés politiques, de tous les coups de couteau dans le dos, etc. Tout en étant au contact, au quotidien, avec des gens qui sont au plus bas de la misère humaine.
Jacinda Ardern n'est pas donc une oie blanche, mais évidemment notoriété à suivre. Mira Kamdar, on reste en Nouvelle-Zélande. On n'a pas donné jusqu'à maintenant le nom du tueur australien, mais on va le donner parce que nous, on n'est pas une femme politique, on n'est pas des femmes politiques, on est des journalistes, donc il s'appelle Brendan Tarrant. Il a publié sur Twitter un manifeste raciste où il a expliqué les motivations de la attaque qui s'appelle le grand remplacement. Ça vous interroge, Mira?
Bah oui, parce que c'est quand même le titre du livre qui a été publié par Renaud Camus en 2011.
En France.
En France. Et d'ailleurs, ce tueur a aussi cité un séjour en France comme une expérience qui a déclenché sa décision de passer à l'acte. Donc, totalement imbibé de cette théorie qui est désormais plus qu'une théorie parce qu'on voit qu'elle commence à inciter des violences
Alors,
bien concrètes.
On va la résumer brièvement, cette théorie. On ne va pas en faire la publicité, bien sûr, mais juste de quoi on parle. C'est quoi la théorie du grand remplacement?
La théorie du grand remplacement...
C'est très simple à comprendre.
Très simple à comprendre. C'est que la population blanche occidentale, européenne dans l'occurrence, ou ailleurs dans le monde, est en passe de se faire remplacer par une vague d'immigration des pays du tiers-monde, et notamment par des musulmans, qui est dont le but est vraiment d'envahir. D'ailleurs, ce tueur a appelé les musulmans qu'il a abattus des envahisseurs.
Parce qu'ils ont un taux de natalité supérieur aux femmes blanches.
Voilà.
Ça, c'est ce que dit la théorie.
Et au cœur de cette théorie et des obsessions, non seulement de ce tueur, mais on peut penser aussi à Anders Breivik au Norvège.
Le tueur norvégien.
Exactement, c'est taux de natalité des femmes blanches. Et où est la faute? le féminisme. Voilà. Et ce qui amène dit, aussi voilà. à des accusations de la féminisation de la civilisation occidentale. Et donc, c'est aux hommes virils, aux vrais hommes, de le défendre, cette civilisation, bah, par des actes de tueurs en masse.
Anna.
Un comique acteur américain s'appelle Bill Maher. Il disait en commentaire encore un type qui n'arrive pas à draguer une femme et qui adhère à toutes ces théories parce qu'il a un problème en lui-même.
Mais c'est vrai,
et
c'est
on n'en est pas loin.
Ouais.
On n'en est pas loin.
Alors c'est en tout cas pour la France, c'est une théorie qui a été complètement démontée par notamment par le démographe Hervé Lebras, hein, qui démontre avec les chiffres à l'appui que la moyenne d'âge pour le premier enfant pour les femmes immigrées de 27 ans, quand elles sont descendantes d'immigrés, 28 ans et demi, et des femmes qui n'ont aucun lien avec l'immigration, 28 ans. Donc en fait, ça ne se vérifie pas, tout simplement, cette théorie-là.
Ça ne se vérifie pas, et puis il faut quand même mettre en question l'idée de base, c'est-à-dire que dans un pays où il y a de l'immigration, ce n'est pas d'un remplacement qu'il s'agit, mais on vient vivre avec, on contribue au pays, on devient quand même par une certaine allégeance à des valeurs partagées. Voilà, c'est ça l'idée de base de nos démocraties aujourd'hui, que ce soit l'Amérique, la France ou ailleurs, c'est qu'on est citoyen parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et pas parce qu'on a un sang partagé.
Et puis moi, je pense que les politiques ont une vraie responsabilité face à ça et qu'on ne les met pas assez en face les politiciens d'extrême droite notamment. Je veux dire, c'est bien beau de s'exciter dans une salle où il y a des partisans en parlant de théorie et tout, mais derrière aujourd'hui il y a de plus en plus de médias.
Il y a pas de prise de distance de la part des politiques, des politiques d'extrême droite,
voilà,
ce que vous voulez dire.
Par rapport aux politiques, c'est voulu, hein, ils veulent pas de toute façon, c'est ça leur pain béni, quoi, c'est ce qu'ils vendent et tout, c'est attiser les peurs et tout. Et moi je pense que en face on les corrige pas assez. On pourrait faire plus, les mettre devant leurs faits, devant leurs actes, surtout une Marine Le Pen comme ça, lui dire bah voilà, maintenant ce que tu dis, c'est ça les résultats, ça se passe. Je trouve qu'on le fait pas assez, justement. Il y a de plus en plus de médias qui sont contre les intox, mais je pense qu'on devrait les punir vraiment, prendre des mesures.
Des intox qui voyagent très vite.
Et le problème, très rapidement, rappel historique, dans les années 90 en Israël, la droite au pouvoir est très préoccupée parce qu'il voit que la courbe démographique des Israéliens arabes musulmans est plus dynamique que la courbe démographique des Juifs.
Ce qui est une réalité
dans
démographique.
La population. Ce qui est une réalité démographique. Et donc, il commence à faire venir des Juifs, une politique de migration, d'immigration de Russes, de Juifs russes vers Israël. Et cela, d'abord, la grande peur de ce grand remplacement, parce que c'était déjà ça à l'époque, ne s'est pas vérifié, mais ensuite ils se sont trouvés avec un problème de hooligan et d'extrême droite raciste néo-nazi en Israël, incroyable. Donc voilà, toutes ces théories peuvent nous exploser à la tête d'une façon inattendue aussi.
On passe à vous parce que évidemment vous êtes jeune et vous vous sentez très concernée par la grève scolaire internationale pour le climat, les manifs des jeunes pour le climat. Ça vous parle? C'était le 15 mars dernier et le 16 mars dernier d'ailleurs à Paris. Voilà, je disais que vous êtes jeune, mais en fait, vous êtes beaucoup plus âgée que
je suis. Beaucoup plus âgée, je ne suis ni lycéenne, ni étudiante, j'ai
26 ans.
J'ai 26 ans, mais je me sens. Ouais.
Et ouais, parce qu'eux, ils ont entre 15 et 20 ans, les nouveaux militants du climat.
Et pour cause, c'est eux qui vont récolter tous les pots cassés de nos actions d'aujourd'hui. Je veux dire, le mouvement a commencé en Suède avec Greta Thunberg et tout, qui aujourd'hui est devenue une vraie icône contre le réchauffement climatique. Donc, je veux dire, il y a eu une vraie. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes se sont sentis interpellés par. par Greta. Et donc, on suivit aujourd'hui ces mouvements de grève scolaire qui sont d'ailleurs reconductibles tous les vendredis. Mais moi, ce que je remarque et tout, c'est qu'on a une mobilisation de génération Y et Z, hein, qu'on a l'habitude de taxer de trop connectée, insouciante et tout. Donc,
individualiste.
Donc, cette prise de conscience vient de générations comme ça. Donc, moi, je me dis, c'est un coup de pied à tous les préjugés hein, qui entourent ces générations-là. Ok, on a beau être connectés, mais on a quand même les yeux ouverts, on voit ce qui se passe et tout. Et c'est aussi, je veux dire, la secrétaire d'État Brune Poisson a tweeté, elle a dit très exactement, derrière les portes de ce ministère, vous n'avez que des alliés, pas d'adversaires. Sauf qu'aujourd'hui, la politique écologie du gouvernement de Macron est assez décriée. Et pour les jeunes même, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle était...
La nouvelle feuille de route est assez ambitieuse, mais il faudra voir ce qu'il en sortira.
Moi, j'ai entendu des jeunes qui disaient que c'est d'ailleurs la démission de Nicolas Hulot qui a été l'électrochoc, quoi, qui a été le mouvement déclencheur. Donc, lorsqu'on voit tout ce qui se passe avec hydrocarbures et glyphosate et tout, forcément, c'est inquiétant quand on est jeune parce qu'on se dit, est-ce que j'aurai le temps ? Moi, parfois, je me demande, mais est-ce que j'aurai le temps de faire mes enfants quand je vois l'explosion démographique et tout ? Ça m'inquiète, quoi. Donc, c'est toujours mieux. Hein, ça prouve qu'on ne reste pas les bras croisés, mais encore une fois, moi, en tant que jeune, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille au bout de la démarche, qu'on se dise, bon, voilà, on est jeune, mais du coup, comment je peux agir ? Je peux agir déjà en étant moins dans la surconsommation de fou, en essayant de trier. Donc, qui mieux que ces jeunes-là, au final, peuvent intégrer de nouveaux comportements ?
Ouais, mais vous parlez en tant que Guinéenne installée en France ou en tant que Guinéenne tout court ? Parce
en
que forcément, j'ai envie, en tant que citoyenne du monde, vous allez me dire.
En tant que jeune.
Forcément, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi la jeunesse africaine ne se mobilise pas pour le moment pour le climat alors que les effets du réchauffement sont beaucoup
déjà
plus palpables
ouais.
en Afrique ouais. On a 12 000 hectares de terres chaque année qui deviennent stériles à cause du réchauffement climatique sur le continent africain, alors que c'est le dernier pays à être la cause du réchauffement. Donc c'est la
le
victime.
Dernier continent.
Ouais, le dernier continent, pardon. Ouais.
Alors moi, comme je le disais, alors moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis vraiment dans des réseaux où je vois, où il y a pas mal d'activistes, je disais que je voyais de temps en temps des petites initiatives comme ça. Je pense à une initiative qui s'appelle hashtag selfie des chats. Hein. L'idée, c'était de se prendre en photo face à tous les déchets, tous les plastiques qui polluent, de Fatoumata Chérif qui est en Guinée et tout. Donc je vois
ça a été très très suivi.
Qui a été très suivi et qui était très relayé, d'accord, parce que c'est aussi quand même l'une des seules initiatives qui se démarque. Mais à Dakar, on a Save Dakar hein, qui essaie de lutter contre la pollution. Donc oui, on pourrait mieux faire, mais effectivement, ces jeunes-là aujourd'hui, leur priorité, c'est quoi ? C'est de trouver un emploi, c'est de vivre dans un pays qui n'est pas instable politiquement. Je veux dire, on a tout le temps, à chaque élection, on a peur hein, on a d'autres priorités, c'est des problèmes d'électricité, d'emploi. Donc effectivement, on est face à d'autres urgences, mais on constate quand même qu'il y a, c'est mou, mais on commence à se bouger un petit peu. Il y a quand même il y a un embryon, quoi. Donc l'idéal, c'est que l'embryon pousse et devienne, je veux dire, qu'on voit ce qui se passe ici, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, mesdames les tchatcheuses, de cette mobilisation très très jeune pour le climat et encore totalement embryonnaire, il faut bien le dire.
Ah, moi, j'adore. Quand les enfants viennent corriger les adultes, je pense qu'il est temps.
C'est vraiment un renversement, en fait.
C'est vraiment un renversement et ils ont raison. Ils vont hériter d'un monde qu'on a pourri et c'est leur avenir. Je pense que là, on voit que les choses vont de pire en pire. Là, il y a eu cette semaine la nouvelle que le taux de gaz à effet de serre, rien que par l'émission des centrales à base de charbon, atteint encore limite. Donc, on ne fait non seulement pas assez, on va dans le sens contraire du sens où on devrait aller. Et ce qui est un peu critiqué de la mollesse de Macron, tout à fait, mais quand on compare ça à la guerre contre tout effort de mitiger le changement climatique par Trump, c'est juste
exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous venez d'un pays qui a quand même bien relancé le charbon.
Oui, et qui relance en ce moment. Il y a eu des débats très, très, très vifs hier dans le Congrès. Le Green New Deal, c'est-à-dire un projet de loi très à l'ampleur du projet de loi qui a été voté contre la Grande Dépression aux années 30, que c'est quand même le changement climatique est d'une urgence. Il faut quand même à une mobilisation nationale d'une ampleur exceptionnelle. Donc, il y a ça aussi.
Et puis bon, ce qu'il faut aussi noter, moi je veux dire, quand je discute avec les jeunes hein, en Guinée et tout, ou en Afrique de l'Ouest notamment et tout, les jeunes, mes jeunes amis et tout qui viennent du Sénégal et du Mali et tout, alors moi ce que j'entends souvent c'est c'est bien beau de nous dire maintenant de faire des efforts quand on a sali la planète, mais nous on ne sait
on
pas,
n'est pas responsable,
on n'est pas responsable, on n'est pas développé, on a, il y a pas eu de charbon, il y a pas eu d'industrie, donc eux les pays occidentaux, voilà, ils ont réussi, ils ont un niveau de vie élevé, nous on est là, on n'a pas ce niveau de vie encore. Donc pourquoi on me demande de faire des efforts quand eux-mêmes ne veulent pas en faire ? Ce qui est tout à fait compréhensible et justifié, quoi.
Je me pose toujours la question, les enfants des dirigeants pèsent sur leurs parents, eux aussi. Des dirigeants politiques, quels qu'ils soient, de quel que soit le pays. Et est-ce qu'ils pourront peser sur ces questions-là ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de dirigeants, ils sont comme les autres jeunes. Ils pensent à ce qui va se passer dans 40 ans, dans 50 ans, quand eux resteront.
Moi, je ne veux pas généraliser, mais en général, les enfants de dirigeants, c'est... très souvent des jeunes quand même qui ont une position privilégiée hein, et qui par la force des choses ont d'autres priorités quoi,
mais donc, pas totalement décérébrés quand même espérez. Vous restez avec nous les tchatcheuses, dans quelques instants on donnera la parole à Anna qui est scandalisée par la justice italienne, ça sera juste après Brazilian Soul. Swing the rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só, brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só, brasileira, meu amor, Brasil.
Chanter, c'est la voix brésilienne des Knox. C'est le petit programme concocté par Romain Dubrac. Pour le plaisir des tchatcheuses, ça vous plaît les filles ?
Oh, beaucoup, papa. Bravo Romain.
Anna Navarro-Pedro, vous êtes scandalisée, je le disais, par la justice italienne, des juges, femmes.
Je suis plus que scandalisée, je suis vraiment écœurée. Deux magistrates avaient en 2015 acquitté deux hommes qui avait violé une jeune femme avec laquelle ils étaient sortis. L'enquête de police, des médecins, prouvait qu'elle avait été droguée. Elle disait qu'ils avaient mis cette drogue, c'est la drogue du violeur, qu'elle avait mis cette drogue dans sa boisson et qu'elle avait été violée. Eh bien, les magistrates l'avaient acquittée, avaient acquitté les deux hommes en disant que cette jeune femme était trop masculine et trop laide pour être violée. Et on a appris ça parce que la Cour de cassation a récemment, là, tout récemment en Italie, cassé ce jugement. Donc les deux hommes vont être rejugés, mais bon, ça s'est passé quand même pas mal d'années.
Oui, parce qu'il y a eu des constatations médicales, policières, sans voilà. Appel. Un viol, c'est un viol.
Un viol, c'est un viol. Et sommé de s'expliquer par la presse, suite à un scandale, des femmes ont manifesté, elles ont dit, mais c'est c'est un jugement médiéval, mais c'est absolument ahurissant, d'un sexisme sans nom. Eh bien, une des juges a dit non, mais franchement, elle a pu inciter les hommes à venir avec elle prendre une boisson. Elle a pu les provoquer. Elle a pu les provoquer. Elle est restée dans cette analyse sexiste.
C'est ça. Donc, elles sont restées sur l'aspect consentement de la victime.
Pire que ça, provocation de son cas. C'est ahurissant. Eh bien, c'est pas le seul cas. Rappelons-nous, donc ça c'était en 2015 en fait, et rappelons-nous que depuis, on a vu un Donald Trump, lorsqu'il était candidat, qu'il est accusé par des femmes d'attouchement et de violence sexuelle, il dit mais elles sont trop laides, c'était trop laides pour que je m'en occupe. Et puis on a vu un type, un capitaine machin bidon, Bolsonaro.
Ça faisait longtemps que vous nous aviez pas parlé de Bolsonaro.
Élu au Brésil et qui disait à une femme députée qui mais vous êtes trop laide pour que je vous viole. Eh bien on a, et les exemples peuvent se multiplier. Hein, et on a des exemples pour des jeunes. On parlait des jeunes et de leur lutte pour quelque chose de leur avenir, et en même temps on a des exemples d'un comportement social, physique, sexuel, qui sont absolument destructeurs. Et la question c'est comment on peut le contrecarrer. Eh bien, l'Italie aussi, il y a un procureur qui disait de ces femmes magistrates, il disait mais c'est ahurissant parce que c'est une insulte refaite, c'est une deuxième insulte refaite aux victimes.
C'est la double peine, effectivement.
La double peine. Il y a une femme politicienne qui disait mais en fait, il faut qu'on rappelle très clairement que le viol n'est pas une question de désir sexuel, qui n'est pas une question d'apparence physique, c'est un crime. Et que ça, il faut le dire très clairement. Donc, on a ces éléments. C'est une question d'éducation aussi, mais c'est aussi une question d'éducation très forte parce qu'en Italie, pour rester qu'en Italie, mais on a beaucoup d'autres exemples en Europe et dans le monde, une femme qui a été violée alors qu'elle était hospitalisée par un travailleur de l'hôpital, le violeur a été acquitté et le viol était prouvé, a été acquitté parce que sa victime n'avait pas crié assez fort. Et encore là, une juge femme. Vous imaginez un autre homme qui a tué sa femme parce qu'il a appris qu'elle avait une liaison, mais il ne l'a pas tuée tout de suite, il a attendu un bon bout de temps. La magistrate a dit que quand même, on pouvait comprendre qu'il avait des circonstances atténuantes parce qu'il devait être très stressé par l'adultère. Écoutez, ce sexisme qui vient, le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, ça peut être aussi féminin comme masculin, et franchement...
Les juges qui sont majoritaires en Italie comme en France, les magistrates,
c'est très féminisé,
les femmes,
c'est
un corps qui est très féminisé.
Et donc, vraiment, c'est une question d'éducation aux enfants.
En l'honneur des femmes. Meera Kamdar, en Inde, vous êtes américaine, hein, mais je précise que vous vous intéressez beaucoup à l'Inde parce que votre père est indien.
Oui.
Alors, vous êtes totalement solidaire d'une femme journaliste harcelée en ligne. Il n'y a pas qu'en Inde que les femmes sont harcelées. En ligne. C'est l'affaire Barka Dutt.
Voilà. Donc Barka Dutt, qui est une journaliste très connue, aussi bien à la télévision que dans l'imprimé, elle écrit régulièrement d'ailleurs pour le Washington Post, et qui a tweeté après un attentat le mois dernier, dans le Cachemire, où il y a eu plus de 40 soldats indiens tués, et par la suite une révolution dans le pays entier qui est très montée contre les musulmans par le gouvernement hindouiste nationaliste actuelle. On a vu des attaques contre des étudiants d'origine cachemiri dans leur dortoir, dans la rue, etc. Donc elle a tweeté qu'elle était là solidaire avec ces innocents et qu'ils pouvaient compter sur elle. Et par la suite, elle a été attaquée, mais pas par ses convictions politiques, mais en tant que femme par des cyberharceleurs
d'une violence. Prise de position dans le conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan.
Mais l'attaque a été une expression totalement focalisée sur sa personne de femme féminine, avec des menaces de viol, de mort,
des vidéos obscènes,
des photos de ce qu'on appelle en anglais un dick pic. Je traduirai pas, mais bon, c'est voilà, pas des parties intimes de ces attaquants. Bon, la semaine dernière, il y a eu 4 de ceux-là qui ont été interpellés. Elle en a identifié une dizaine d'autres
elle dit ne pas lâcher jusqu'à les 10 soient interpellés. Et on voit quand même des ressemblances dans le cas assez récent quand même en France de Nadia Dame, qui a aussi subi un cyberharcèlement extrêmement violent, un peu de la même façon. C'est un problème mondial, c'est un problème qui particulièrement subi par des femmes journalistes. Moi, j'ai reçu aussi des menaces, notamment de la part des Indiens, lorsqu'un éditorial critique du gouvernement actuel apparaissait dans le New York Times, des menaces de toutes sortes dans les médias sociaux. C'est un vrai problème.
Pourquoi, finalement, cette journaliste accuse les nationalistes hindous d'être à l'origine de ce harcèlement sexuel en ligne? Du fait de sa prise de position pour défendre les étudiants cachemiri, mais en même temps, parmi les harceleurs en ligne, il y a un musulman.
Il y a un musulman, c'est vrai, mais bon, c'est peut-être un peu l'exception qui prouve la règle dans l'occurrence, puisque il est très, très, très connu que le mouvement d'extrémisme hindouiste nationaliste en Inde a maintenant, et en liaison avec le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, une véritable armée de trolls dans les médias sociaux qui sont mobilisés à tout moment et qui prennent des cibles. Et donc, il y a par la suite, littéralement, des centaines de milliers de jeunes hommes, un peu dans le cas des malbaisés qu'on a invoqués tout à l'heure, excusez-moi, mais c'est un peu ça, qui n'ont pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi en Inde, qui n'ont pas la possibilité de se marier, qui c'est une société conservatrice, donc ils ne peuvent pas sortir avec des filles, et voilà.
Journaliste femme indienne, c'est pas bon en ce moment. L'ONG Reporters sans frontières, d'ailleurs, note une recrudescence en Inde des actes, des comportements sexistes, misogynes, et puis pour ce qui est de la position de l'Inde dans le classement des libertés de la presse, 138e sur...
Il y a même Gorilla Lankesh, cette journaliste qui a été tuée il y a juste 2 ans.
Et puis moi, j'ai tendance à dire que très souvent, les femmes qui ont intégré le patriarcat, elles sont même pires que les hommes, quoi, qui, d'une certaine manière. Je veux dire, les femmes qui reproduisent, qui cherchent l'affirmation masculine, la confirmation, le fait d'être félicitées,
qui sont exaspérées par un féminisme montant, plutôt. Non ?
Si on est exaspéré, c'est quelque part, il y a un problème, non ? Je sais pas. Pour moi, ça coule de source, quoi. Il y a des problèmes, le féminisme essaie d'y répondre. Après, comme dans tout, il peut y avoir des dérives. C'est pas ça. Pour autant qu'il faut jeter...
En tout cas, il y a des petites victoires, dirait tout Diallo, et vous avez envie de nous en signifier une. Réseaux sociaux qui se sont mobilisés dans votre pays, Guinée, pour la lutte contre les mariages précoces, à propos d'une affaire très précise.
En particulier. Oui, donc tout est parti d'une photo, un jeune homme d'une vingtaine d'années, Samba Barry, a posté une photo sur Facebook, donc il était très content, très fier d'avoir épousé une jeune fille. Sauf que lorsqu'on regarde les photos, on a en face une gamine qui doit avoir 13 ans, c'est lui-même qui dit son âge dans les commentaires et tout, et elle a 13 ans la jeune fille, qui s'appelle Fatoumata Binta. Donc en quelques heures, la publication crée un tollé, elle est partagée des centaines de fois, moi-même je la repartage, je m'indigne, je suis en colère. J'en appelle à notre responsabilité, nous, en tant que féministes guinéennes, mais surtout en tant qu'êtres humains, tout court d'ailleurs, féminisme ou pas. Et face aux mariages précoces, qui sont très souvent des mariages forcés, il faut le dire. Donc face au tollé, les gens n'hésitent pas du coup à lui écrire en privé sur Facebook, à aller lui dire « mais qu'est-ce que tu fais avec cette jeune fille-là » Et il prend peur et face à la pression en ligne, il publie quelques heures plus tard qu'il a annulé le mariage et qu'il a rendu la jeune fille à ses parents. Donc l'histoire ne s'arrête pas là.
L'expertise médicale a conclu que l'union n'avait pas été consommée. Donc cette jeune fille n'a pas été violée. Parce qu'il se serait agi d'un viol,
si vraiment ça n'a pas été le cas. Alors moi encore, je prends beaucoup de distance avec cette expertise-là, parce que moi je sais qu'on n'a pas les moyens nécessaires, et puis bon, que parfois, face à la crainte de vagues, on peut essayer de calmer les gens. Mais en fait, le fait qu'elle n'ait pas été touchée a été expliqué par une rumeur qui dit que le jeune Samba a épousé cette fille-là, en fait, pour la retirer du marché du mariage. On la marie, on la laisse grandir chez ses parents. C'est pas de la protéger. Moi, j'appelle ça fermer son avenir. Parce que la jeune fille, elle a 13 ans, l'épouses, elle ne peut plus rien faire. Prétendument pour qu'elle reste sage, jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'il la récupère.
C'est très paternaliste,
et encore une fois...
Il y a l'école pour ça, pour rester sage, a priori.
A priori, c'est fait pour ça. Mais sage comme eux, ils l'entendent. Attention, c'est pas comme vous l'entendez. Sage comme eux, ils l'entendent, c'est pas sortir, c'est pas mettre de pantalon, c'est pas avoir de petits copains.
C'est comme une nonne dans le catholicisme, quoi. Exactement. Entrer au couvent, quoi.
Conserver innocente jusqu'au jour.
Jusqu'à ce que moi, je vienne la déflorer parce que je suis le mâle puissant. Donc, moi, la question que je me pose, c'est du coup, si ce mariage n'avait pas été exposé sur Facebook, qu'en aurait-il été ?
Combien d'autres il y en a ?
Combien d'autres il y en a qui vont jusqu'au bout et dont on ne sait rien ? Et selon des statistiques de 2017, il y a 22,8% de jeunes filles en Guinée qui se marient avant 15 ans.
Avant 15 ans. Et 54,5% de filles mariées avant 18 ans.
Avant 18 ans. Donc c'est des statistiques énormes. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent, en tout cas, de mener une forme de vigilance. Ouais. Mais encore une fois, seule une volonté politique de sensibilisation, d'éducation pourra vraiment.
Il y a eu une campagne au Burkina Faso qui a été lancée par l'UNICEF, une campagne au Burkina qui s'appelle Ne m'appelez pas madame. Ouais. C'est un joli slogan, effectivement. Anna Navarro-Pedro, il nous reste un tout petit peu de temps quand même pour qu'on donne la parole à ce champion d'échecs de 8 ans à New York. Il est d'origine nigériane. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais ça fait du bien d'entendre cette petite voix surdouée, tout simplement.
Je veux devenir le plus jeune grand maître des échecs et battre le record du champion du monde. Tout est possible. Dieu peut tout faire pour moi.
Il a une bouille, un sourire, mais on craque pour lui.
Tanitoluwa Adeyemi.
Absolument, avec sa famille, ils sont venus de Nigeria aux États-Unis comme réfugiés, fuyant Boko Haram, le mouvement islamiste radical dans son pays. Ils étaient à la rue. Il dormait dans un refuge. Et puis le petit, il y a un an, connaissait pas les échecs. Il a commencé à jouer aux échecs. Il est devenu champion dans sa catégorie d'âge pour tous les États-Unis. Quelqu'un leur a offert un appartement où vivre. Il y a une collecte de fonds de 100 000 dollars réunis à ce jour que la famille n'a pas empoché entièrement. Je pense qu'ils doivent s'en servir pour s'aider un petit peu. Mais ils ont créé une fondation pour aider d'autres réfugiés de leur pays et d'Afrique. Et donc, il y a une certaine abnégation. Quand on voit la photo de la famille, on voit que c'est une belle famille, papa, maman, un grand frère, le petit bout de chou, mais qui a un soleil. Et puis on avait envie d'une belle nouvelle.
Le petit bout, quand même, il a le cerveau qui fonctionne bien.
Oh, il doit
même,
faire beaucoup de bêtises quand même pour son âge
d'affilée.
Aussi.
Merci Anna Navarro-Pedro pour ce sourire. Alors vous restez avec nous, les tchatcheuses, vous savez, à la fin de l'émission, on a toujours un reportage dans quelques instants. Ça sera un retour sur le climat et les jeunes. Oui, c'est quand même une vague de fond. Certains commencent déjà à imaginer le monde d'après. Comment vivrons-nous en 2050 ou peut-être même avant? On en parle, ça sera juste après Wanna Come Down. On
est chez 7 milliards de voisins sur RFI en direct en compagnie des tchatcheuses. Reportage en cette fin d'émission. Quel métier inventer en cas d'effondrement de notre civilisation? Et bien cette question, ils ont été une cinquantaine à se la poser, des filles, des garçons, étudiants, lycéens, jeunes travailleurs. Ils s'étaient réunis à l'occasion d'un atelier de collapsologie proposé par l'association Astéria à la Maison des Initiatives étudiantes à Paris. La collapsologie, vous savez ce que c'était, Anna ?
Eh bien, vous me l'avez expliqué ben avant d'entrer. C'est vraiment la peur des jeunes d'un monde qui s'effondre.
En fait, c'est ça. Ça vient de l'anglais collapse, c'est-à-dire s'effondrer. Hein. Et donc, c'est cette discipline qui est consacrée à l'étude de l'effondrement de nos civilisations industrielles. Voilà. C'est pas du tout de la fake news. Après, qu'est-ce qui va se vérifier, on ne sait pas. Mais en tout cas, lors de cet atelier, eh ben, les jeunes réunis par petits groupes doivent inventer de nouveaux métiers dans six domaines, l'agriculture, l'énergie, le vivre ensemble, la biodiversité, l'éducation, les transports. Les transports, c'est sur cette dernière table que notre reporter Charlie Dupiot a posé son micro auprès d'une génération qui baigne très calmement dans une terrible inquiétude.
Pour tout ce qui est transport, si jamais on rationne vraiment tout ce qui est pétrole, si jamais on vise la semi-autonomie alimentaire sur chaque petite ville.
Juste, tu vas livrer à ton voisin ce que toi tu exploites et inversement, quoi.
Ouais.
Bon, j'arrête, bien sûr.
Avec des chevaux. Bon. Donc l'alimentation, les soins, vous pensez à quoi d'autre?
Aujourd'hui, on pense à voyager. En 2060, on pensera peut-être plutôt à survivre. S'il n'y a plus d'arbres, si on ne peut plus boire d'eau du robinet, je pense que ça va être compliqué.
Oui, les amis vont se regrouper, enfin, on va chacun s'entraîner, quoi.
On tend vers du Tesla. Plus, quoi. Modèle 3, c'est la voiture électrique la plus vendue aujourd'hui. Bon.
Pour l'alimenter, exactement. Et puis, il faut pouvoir la fabriquer et elle coûte extrêmement cher à fabriquer.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport? On va conserver quelques avions, des bateaux, tu disais, même si ça crame un max de fuel.
Des voiliers. Des voiliers.
Comme dans Star Trek, tu vas d'un endroit à un autre et t'as vraiment une nouvelle technologie où les gens font hop et tu te retrouves à l'autre bout et là on part en vrille là. Urgence, sécurité, alimentaire, soins. Là, va falloir créer un boulot derrière ça.
C'est le pompier de demain quoi, quelque part.
On va tous devenir pompiers maintenant.
Là vous êtes 5 autour de la table, vous vous connaissiez avant?
Non.
Un monde post-effondrement, ça veut dire quoi en fait?
On n'est pas tous d'accord je crois.
En fait, je pense pas que tout disparaîtra, on ne sera pas au Moyen-Âge. Mais on va devoir faire des choix sur ce qui va disparaître, ce qu'on va moins utiliser.
Pour moi, la grosse question, elle est alimentaire, en fait. Parce que vraiment, demain, nos terres sont plus exploitables, j'ai du mal à voir comment on va arriver à surmonter ça, en fait. C'est pas tout, hein.
On va manger des insectes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez au futur, en fait. Vous n'êtes pas dans le conditionnel. Pour vous, c'est du futur.
Ouais, on est là parce qu'on pense que ça va arriver.
Vous avez quel âge ?
34.
La collapsologie, c'est pas trop connu. Comment vous êtes tombée là-dessus?
Parce que j'ai vu que Pablo Servigne avait sorti un troisième bouquin, que je me suis rappelé qu'en fait on m'avait filé son premier.
C'est un collapsologue connu.
Ouais, français. Et du coup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Lui, il prévoit l'effondrement pour avant 2030. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs effondrements qui vont s'enchaîner. Et ça peut commencer par une crise financière, et puis ça peut être une crise nucléaire où on n'a plus d'électricité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus autonome, à faire un potager sur notre terrasse, même si ça ne va pas forcément nous sauver la vie si un jour il n'y a plus d'électricité et plus rien dans le magasin. Au moins, ça peut nous rassurer, savoir qu'on a un petit backup, quoi, un petit plan B.
C'est marrant parce qu'à vous entendre, être collapsologue, c'est aussi un peu bobo, vous voyez, bourgeois
ouais.
Bohème.
Je veux dire, le bio, il y a une époque, c'était complètement hippie et maintenant, ça vient plutôt branché. Voilà, la collapsologie, aujourd'hui, c'est un peu hippie, puis ça peut devenir branché. Moi, je vois ma mère qui pourtant a lu les bouquins, ça la concerne beaucoup moins. Et je pense aussi parce qu'elle a 65 ans et elle n'a pas forcément envie d'y penser maintenant, alors que nous, on a énormément de responsabilités, en fait. Moi, je pense, ma fille, c'est ce que j'ai envie de lui transmettre, quoi, qu'il y a autre chose que faire des grandes écoles et travailler dans des grosses boîtes et gagner du fric pour partir au bout du monde en avion.
Vous avez grandi ici, à Paris ?
Ouais, en banlieue parisienne.
Vous n'avez pas vraiment eu les mains dans la terre ?
Absolument pas, et j'ai fait ma prise de conscience il y a 2 mois.
Il y a un côté presque religion.
C'est vrai, c'est ce qu'on me dit de l'extérieur, c'est que ça peut être un peu sectaire. Et quand je vois la réunion à laquelle on est ce soir, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est vrai que tous les amis que j'avais pas vus depuis 2 mois, à qui je dis bon bah voilà, j'ai arrêté ma start-up sur laquelle je bossais depuis 1 an et demi, parce que je crois en l'effondrement et que je veux protéger ma famille d'une part et d'autre part faire tout ce qui est possible pour repousser la date à laquelle ça va s'effondrer. Bah oui, on regarde un peu de travail. Mais est-ce que je comprends?
Donc on va passer à la restitution, à la présentation du fruit de vos réflexions. Donc dans un monde post-effondrement, plus de pétrole, on va passer d'une société qui est aujourd'hui très très majoritairement dans le tertiaire, dans les services, etc., à une société très majoritairement dans la production, dans le primaire, agriculture à 60% de la population. Beaucoup des personnes aujourd'hui n'ont pas les connaissances suffisantes pour produire comme ils devraient le faire. Et l'idée de métier, c'est une personne qui se baladerait de village en village, apportant des connaissances, du matériel aussi, par exemple des graines, des semences qui seraient pas forcément disponibles ailleurs. Un troubadour de la connaissance, voilà.
Bonjour. Du coup, nous, on passe juste après parce que c'est hallucinant à quel point on a dit exactement la même chose, en fait. Parce que... Sauf que nous, on est dans l'éducation, du coup, le troubadour des connaissances, c'est le métier sur lequel on a abouti. Parce qu'en fait, clairement, si on est dans une société post-apocalyptique, ce qu'il nous faut, c'est quand même une éducation pour les enfants qu'on va continuer à créer. Ce serait un troubadour, effectivement, des professeurs mobiles et vagabonds qui se déplaceraient de village en village et qui seraient spécialistes d'une connaissance. Donc, que ce soit des menuisiers, que ce soit des plombiers ou des agriculteurs, qu'ils apprennent aux enfants à se débrouiller par eux-mêmes. Et donc on remplacerait le bac par le bac solitude, en fait. Ce serait une initiation dans la nature, nous abandonner dans une forêt. Comme ça, on utilise tous nos enseignements donc de survie, de faire un feu, de se faire à manger, de pas se faire manger par les animaux. Ensuite, on revient dans notre village et on se rend vraiment compte que la coopération, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on fait une société, c'est en partageant nos connaissances, mais il faut déjà qu'on soit capable de survivre par nous-mêmes. Donc plutôt un bac de survie. Bien.
Un baccalauréat de survie, vous y croyez dans le monde d'après, dirait tout dire.
Moi, je trouve ça super intéressant, franchement. Et puis, je trouve qu'ils sont vachement organisés, ils pensent à tout, il y a une structure derrière, c'est en quoi. En tout cas,
c'est pas des dingues, hein, vous les avez entendus. Bon, ils sont...
C'est structuré, hein, c'est construit, il y a une pensée derrière qui se tient, moi, je pense. Et puis, très, très intéressant l'idée de. C'est les Hunger Games, quoi. Ça me rappelle un film qui s'appelle Interstellar, où le héros, c'est un fermier, quoi. C'était pas celui qui allait dans l'espace, c'était un fermier. Et non, je trouve que c'est ça.
Mais en fait, au lieu de se baser sur la possibilité d'une technologie, d'une autre évolution, d'inventer quelque chose de nouveau, ils transposent en 2050 ou 2100 tout ce qui était le monde pré-presse Gutenberg. C'est le monde médiéval, en fait, dont ils parlent là. Donc ça, c'est un peu décevant, je trouve, dans leur façon de penser, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont des technologies, qui inventent des choses extraordinaires qui peuvent améliorer le quotidien. Et puis, ils ne nous disent pas qu'ils font... Ils disent un tout petit peu, mais pas énormément, qu'ils font... Ils se préparent un avenir proche, mais moi, je fais ma part maintenant. Ce que je peux... Ce n'est pas extraordinairement glamour, mais j'épargne l'eau, je fais ma petite part, là, pour rendre le monde moins horrible. Quoi. Et puis, c'est vrai qu'on peut se préparer à cultiver quelque chose et que c'est pas évident de cultiver ces haricots. Vous en plantez 100 et vous avez deux pieds qui poussent. Je parle d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais c'est intéressant quand même.
Mira Kamdar, vous les trouvez trop pessimistes ?
Non, je trouve trop naïf, en fait. Vraiment très naïf à penser que l'effondrement de la civilisation va se faire tout en douceur, que tout d'un coup, les gens vont se trouver vivant en village avec des troubadours qui passent avec des semences et que tout ça va se passer sans violence. Je trouve ça quand même merveilleux, mais quand même peu vraisemblable. Et puis, c'est tellement venant des États-Unis où tous ces scénarios d'un monde post-effondrement sont accompagnés du besoin de s'armer au maximum pour se défendre contre des hordes qui vont venir vous piquer le peu de graines que vous avez.
Mais c'est symptomatique des États-Unis, ça.
Moi, je trouve qu'ils sont naïfs. Merci à vous, les tchatcheuses. Vous revenez quand vous voulez pour commenter l'actualité de votre choix. Merci aussi à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. On se retrouve demain, studio 41 de RFI. À Issy-les-Moulineaux. À demain, les voisins et les voisines.